affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Faut-il bannir les passions du processus électoral pour ne voter qu'à la lumière de la raison ? Non, répond l'helléniste Laurent Pernot. Un scrutin mobilise des émotions, des sentiments et toutes sortes de mobiles obscurs. Ce substrat contribue à la beauté et à la grandeur d'une campagne. Pourquoi voudrions-nous le refouler ? L'auteur s'appuie sur de nombreuses références culturelles, d'Aristote à Balzac, de Coriolan à Kennedy, de Montaigne à Macron. Le jour de l'élection devient alors le moment critique qui concentre les passions collectives dans une catharsis nécessaire à la vie en société. Laurent Pernot est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Dans son dernier essai, « La fièvre des urnes », ce professeur de langue et de littérature grecque redonne à la vie politique sa dimension dramatique. Bonjour Laurent Pernot.
Bonjour.
Pour commencer, Laurent Pernot, nous avons bien compris que vous voulez remettre les passions au cœur du processus électoral. Mais comment voyez-vous l'articulation de ces passions avec la raison qui demeure néanmoins dans le choix d'un électeur ?
La raison, le rationnel, c'est ce que l'on voit au premier abord. Les candidats, les électeurs se réclament de raisonnement, on parle de programme, on compare des chiffres, on fait le calendrier des différentes mesures. Donc le processus se déroule au niveau rationnel. Quand on parle de passion, c'est en la nuançant. Par exemple, un candidat ne dit pas « je suis ambitieux », il dit « j'ai une ambition pour mon pays ». Un électeur ne dit pas « je suis de parti pris », il dit « j'ai des convictions ». Donc, on a une façade, enfin, c'est plus qu'une façade, un premier niveau qui est le niveau rationnel, et je vois les passions comme étant derrière ou en dessous. C'est une espèce d'élément refoulé. Nous savons tous intuitivement qu'elles existent. Ce n'est pas une découverte que de dire qu'elles sont là. Par contre, on n'en parle pas. Et donc, ce que j'ai voulu faire, en somme, c'est mettre sur le devant de la scène cet aspect impur, grouillant, complexe et en même temps agissant, dont on ne parle pas suffisamment. C'est un refoulé qu'il faut faire revenir au premier plan.
L'abstention suscite toujours beaucoup de commentaires. Est-ce qu'on pourrait la lire comme justement une disparition de ses passions ?
On dit que les Français ne se passionnent pas pour la campagne, mais à mon avis, c'est une erreur. On a entendu récemment une foule scander dans un meeting X assassin. Et ce n'est pas que les participants aient cru que la personne en question en avait vraiment assassiné une autre. Non, c'était un cri de passion, un cri de haine. Sous cette forme hyperbolique. Il me semble que les passions sont là, même si on ne les voit pas toujours. Même l'abstentionniste n'est pas nécessairement un apathique. On peut s'abstenir par mépris, par rage, par colère et par désespoir, pour beaucoup de raisons qui sont aussi passionnelles. En fait, beaucoup de gens suivent de très près les débats, sont attentifs aux enjeux, non seulement de l'élection qui est toute proche à l'heure où nous parlons, mais aussi des élections législatives qui vont venir ensuite. En somme, à mon avis, les passions couvent. Et si elles ne s'expriment pas maintenant, elles risquent de se déchaîner ensuite. Alors autant en parler.
Et justement, nous allons peut-être revenir à ce mot de passion qui porte une longue histoire et qui a commencé à être défini par vos chers Grecs et qui ont dressé des listes des passions humaines. Pendant un certain temps, on s'est intéressé aux passions et on s'en est méfié aussi. Est-ce que nous sommes toujours les héritiers de cette méfiance vis-à-vis des passions ?
J'ai choisi le mot « passion » de préférence à « émotion » qu'on emploie souvent aujourd'hui, à « affect », parce qu'il a une épaisseur historique, comme vous le dites justement. Les philosophes, les moralistes ont cherché à classer les passions depuis toujours. La distinction qui me paraît peut-être la plus opératoire, parce qu'elle est très simple, c'est une distinction qui remonte à la philosophie antique et qui a été reprise par les théologiens ensuite, qui consiste à classer deux catégories simplement de passions. D'un côté, les passions qui reposent sur un désir de possession, ce qu'on appelait les ardeurs concupiscibles dans ce latin transposé, c'est-à-dire le désir de se procurer la gloire, l'argent, le pouvoir. Et puis, d'un autre côté, les passions qui reposent non pas donc sur un désir de possession, mais sur un sentiment de frustration, l'ardeur irascible, colère, tristesse, désespoir. Donc, soit le désir de possession, soit le sentiment de frustration. C'est une première manière de baliser le champ, et il y en a eu de beaucoup plus détaillés et beaucoup plus raffinés. La passion, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de passif que l'on subit, qui donc vient perturber le mode de raisonnement contrôlé que nous voudrions avoir. Donc en ce sens, elle a été considérée comme mauvaise. Et puis le tournant a eu lieu au XVIIIe siècle, lorsque la passion a été au contraire révisée et vue comme une impulsion généreuse, un élément moteur, une source de vitalité qui pousse à l'action. D'où la fameuse phrase de Hegel, « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion ». Il y a donc une ambivalence dans l'histoire et qui est encore sensible aujourd'hui. Il y a des passions qui sont nobles et généreuses, comme la passion de la vérité, et puis il y a des passions qui sont viles, comme la rancœur. Il y a des passions qui ont des effets toniques, comme le désir amoureux quand il inspire, et d'autres qui ont des effets toxiques, comme la passion du jeu, qui peut ravager un individu. Dans les bonnes passions, il peut se glisser quelque chose de mauvais, comme lorsque la passion de la vérité transforme quelqu'un en ayatollah intolérant. Inversement, dans les mauvaises passions, il peut se glisser quelque chose de bon, comme lorsque le désir de vengeance va donner la force de faire avancer une cause. C'est toute l'histoire de MeToo, en somme. Bref, l'homme n'est ni ange ni bête, ses passions sont ambivalentes, complexes, et tout ça s'applique à la politique et aux élections. C'est une espèce de flot impur qui charrie toutes sortes de choses, mais qui donne la force. S'il n'y avait pas ce moteur passionnel, alors nous n'aurions plus envie de voter et les candidats n'auraient plus la force d'affronter tout ce qu'ils affrontent pour se présenter au suffrage.
Ce qui est intéressant dans le domaine politique, c'est que nous passons de la passion individuelle à la passion collective, et c'est une dimension importante.
La passion politique fonctionne si elle est communicative, entraînante, pour passer de l'individu au groupe. Et il y a toute une série de relais. En ce sens, un des plus importants, c'est le relais du discours. Une campagne électorale est faite pour une bonne partie, peut-être même uniquement, de paroles. Le candidat, par définition, n'agit pas. Et souvent, on lui reproche ensuite de ne pas avoir réalisé ce qu'il avait annoncé en parole. Donc, un candidat, c'est un homme qui prononce des discours devant les Français en général grâce aux moyens de communication, et puis dans des petits cercles. Il y a aussi les discours au moment des résultats et puis les discours au moment de l'investiture. Donc une campagne électorale est faite de discours. Et le discours, ça n'est pas donc un verbiage sans finalité, c'est le truchement par lequel peut s'opérer la mobilisation collective.
Alors certains philosophes ont justement creusé cette question des liens entre la parole et la vie politique. Vous avez sans doute un exemple en tête.
Il faut revenir aux Grecs. comme sur beaucoup de domaines d'ailleurs, et on peut se référer en particulier à la rhétorique d'Aristote. Donc Aristote, dans son immense projet philosophique, a inclus un traité consistant à décrire le fonctionnement du discours politique. La rhétorique est consacrée au discours politique. Et il explique, c'est une intuition géniale qu'il a été le premier à formaliser, que la communication politique ne consiste pas seulement dans l'échange d'arguments rationnels, mais qu'il y a une autre dimension et que l'orateur doit donc parler aux passions de ceux qui l'écoutent. Alors, soit à leurs passions au sens propre du terme, les passions vives qui les traversent, un auditoire peut être en colère, un auditoire peut être indigné, soit, de manière plus douce et pérenne, parler à leurs traits de caractère. Lorsqu'on parle, à des vieillards, on admet qu'il n'est pas raisonnable de jouer sur les espérances à long terme, alors qu'au contraire, quand on parlera à un auditoire de jeunes gens, eh bien, on fera miroiter l'avenir, et ainsi de suite. Et donc Aristote a consacré un livre entier de sa rhétorique à cette question pour montrer combien le discours politique suppose de créer une passion commune par le moyen du discours. Ce que La Rochefoucauld, beaucoup plus tard, a résumé en une maxime, « Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours ». C'est paradoxal, mais ça pousse à l'extrême la thèse qui était celle d'Aristote.
Auriez-vous quelques exemples de discours en tête, de discours politiques pour la période contemporaine ?
Nous en avons encore des exemples. Donc Aristote est moderne parce qu'il nous permet de comprendre, par exemple, la fameuse anaphore « moi président », employée autrefois par un candidat.
C'était François Hollande en 2012.
« Moi président », ça voulait dire « j'inspire de l'espoir par ce que je promets que je ferai », mais aussi, comme moi président, c'était ambigu, ça voulait dire à la fois si je deviens président et quand je serai président, ça donnait déjà la confiance à l'idée de réaliser le projet. Un candidat encore récemment disait je vous promets des jours heureux. Là, c'est jouer sur l'espoir. On pourrait donner beaucoup d'exemples.
Est-ce que l'enjeu dans un discours de candidat, c'est de passer du « je » au « nous » ?
C'est en tout cas une méthode tout à fait recommandable que de montrer que la parole va au-delà de celle de l'individu et qu'elle incarne un groupe. Le degré supérieur que pratiquait en particulier le général de Gaulle, c'était de passer du « nous » à la France. Et alors, à ce moment-là, le candidat n'est plus que celui qui est par la bouche de qui parle la patrie. Une belle citation de Jaurès qui dit « C'est dans le prolétariat que le verbe de la France se fait chair ». Comme souvent avec les citations de Jaurès, on n'est pas absolument sûr de comprendre ce que ça veut dire exactement, mais on comprend tout de même que ça veut dire qu'il y a une dimension presque religieuse dans la parole politique, en l'occurrence du socialisme.
Cela fait penser à une citation de Victor Hugo dont vous parlez dans ce livre, quand il défend le processus électoral et ce suffrage universel. Il emploie des mots en fait, qui sont proches du sacre, le processus d'élection. Sacre le citoyen, l'électeur.
Oui, dans l'idée de reconnaître la valeur, c'est-à-dire de faire l'éloge du processus électoral, il y a une transposition vers le domaine religieux pour accentuer en somme la valeur et puis aussi pour marquer l'équivalence de ce processus électoral de la démocratie nouvellement établie à l'époque de Hugo, son équivalence avec les ressorts du gouvernement royal qui lui aussi se réclamait du divin. Et donc c'est la nouvelle divinité du processus politique qui est reconnue par là.
Alors avant de parler des passions des électeurs, nous allons d'abord nous arrêter sur celle du candidat, et peut-être pourrions-nous revenir à l'étymologie de ce terme candidat, parce que chez les Romains, c'est celui qui va apparaître, se mettre en avant devant les autres. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Oui, donc candidat vient de l'adjectif candidus, qui veut dire blanc, qui veut dire aussi candide, sincère, comme en français moderne, mais c'est pas du tout ce sens-là qui est en jeu dans la notion de candidat, tant pis. Donc le sens de candidus dans le domaine électoral, ça veut dire blanc, mais plus que blanc, blanc brillant, blanc éclatant, parce que le candidat revêtait une toge spéciale, qui donc était particulièrement visible, vêtu de laquelle il circulait sur le forum pour se présenter auprès des électeurs, de ses partisans et de ceux qu'il voulait convaincre. Donc l'idée, c'est au départ de se distinguer, de se manifester. Le candidat, c'est celui qui s'expose, qui montre qu'il est candidat, qui va le montrer publiquement, qui attire les regards sur lui, donc il faut de l'audace pour être candidat, afin de susciter ce mouvement d'adhésion dont nous avons parlé.
Et ce candidat porte une passion particulière, l'ambition, qui oui. Elle aussi a une étymologie intéressante.
Alors un autre mot latin. Donc ambire, le verbe ambire veut dire aller de part et d'autre. Aller des deux côtés en même temps, dirait-on aujourd'hui. Et donc ça a donné le substantif ambitio, qui donc au premier sens signifie les démarches que le candidat fait dans différents secteurs de la société ou pratiquement dans différents côtés du forum pour aller solliciter les voix. C'est donc ce que nous appelons, nous, la campagne. Ambitio, c'est d'abord faire campagne. Et puis, en latin déjà, ce mot prend un deuxième sens, qui est le désir de vouloir être reconnu et choisi, ce que nous appelons, nous, l'ambition. Donc, dans le même mot latin, on a la campagne et l'ambition. C'est assez montré combien ces deux notions sont intrinsèquement liées. Et puis, il y a un troisième sens pour ambitio, et puis peut-être encore plus pour le mot jumeau ambitus, qui est la brigue lorsque le candidat recourt à des moyens illégaux pour parvenir à ses fins. Donc la campagne, l'ambition, la brigue, tout ça, c'est ensemble. C'est lié dans le mot latin.
Et vous donnez quelques exemples, y compris dans des élections très particulières, celles qui ont lieu lors des conclaves, de simulation ou de ruse, pourrait-on dire, de la part de candidats pour se faire élire.
La béquille de Sixte Quint est restée proverbiale. Les conclaves, pour qui s'intéressent aux passions électorales, sont des circonstances extraordinaires parce que c'est un concentré de ces passions. D'abord parce que le nombre des électeurs est relativement réduit et à l'époque de la Renaissance, dont nous allons parler, il l'était encore plus qu'aujourd'hui. Et puis parce qu'il s'agit de prélats qui ont une très longue expérience de la direction de conscience et qui savent donc sonder les motifs des uns et des autres. Et donc l'anecdote rapporte que Sixte Quint, lorsqu'il s'est présenté au conclave avant de devenir pape, donc n'étant encore que cardinal, dans l'idée déjà de se présenter au suffrage de ses pairs, donnait l'apparence d'un homme malade. Il tenait à peine debout, il s'appuyait justement sur un bâton, une béquille, et puis il toussait et on avait l'impression que sa fin était proche. Ce qui fut un argument pour son élection, parce que les cardinaux pensèrent que, mon Dieu, il n'aurait pas un long pontificat, ce qui laissait évidemment des espoirs pour les autres de lui succéder dans un avenir relativement proche. Et puis, à peine élu, voilà que Sixte Quint se métamorphose. Il, selon l'anecdote, il jette au loin sa béquille et donc se redresse. Il crache avec vigueur, il entonne le Te Deum et il commence un pontificat qui fut en effet un pontificat extrêmement plein de réformes audacieuses et aussi d'actions très décidées et parfois cruelles de la part du pontife. Si bien que cet épisode est resté dans les annales, bon, il est peut-être un peu enjolivé, il n'est pas sûr que ce soit la vérité historique totale, mais il est resté comme le symbole du candidat qui ne révèle sa vraie nature qu'une fois élu.
Alors, nous avons parlé des passions du candidat et au premier chef, cette ambition. Est-ce que la passion première de l'électeur, ce serait la fierté ?
La fierté d'être électeur. C'est la fierté de l'électeur en tant qu'électeur qui est fondamentale. Cette idée du pouvoir qu'il exerce, le jour de l'élection, c'est son jour. C'est son jour. Il tient son maître dans sa main. Et comme le dit Victor Hugo dans un autre passage, c'est le jour où le travailleur tient les puissants dans sa main calleuse. Et pour leur dire tu es à moi. Et donc il y a cette fierté qui peut tourner même à l'ivresse dominatrice dans certains cas, qui peut aussi se transformer en colère si l'électeur a le sentiment de ne pas être respecté comme il le mériterait. Donc le peuple électoral est un animal qui peut être dangereux, dont les réactions sont parfois imprévisibles, qui est dangereux et qu'il faut savoir traiter. Le peuple a horreur qu'on ne le considère pas, justement à cause de la fierté dont nous venons de parler. Il veut être respecté et par conséquent... Il regimbe s'il a l'impression qu'on lui a manqué. J'ai analysé un exemple qui est tiré de la tragédie de Shakespeare sur Coriolan, qui va dans ce sens. Donc Coriolan, c'est le général romain triomphateur qui est promis au consulat. Et pour devenir consul, il doit seulement obtenir les voix des citoyens. Et ces voix lui sont acquises vu ses prouesses. Mais ce qui advient dans la tragédie, c'est que Coriolan se révèle trop fier pour solliciter les suffrages. Et donc il laisse paraître devant les citoyens romains le mépris aristocratique et humain en même temps dans lequel il les tient. Et ceux-ci ne le supportent pas. Et par conséquent, Coriolan, non seulement ne sera pas élu, mais sera même banni. Donc il faut faire attention au complexe de Coriolan qui peut frapper les candidats trop hautains.
Shakespeare en a d'ailleurs fait une pièce avec cette citation de Coriolan. C'est une comédie que je rougirais de jouer. Le candidat est obligé d'accepter une forme de théâtre.
Oui.
De devenir un acteur ?
Il doit instaurer un rapport avec les électeurs qui soit assez nuancé. C'est-à-dire qu'il faut à la fois se mettre sur le même plan qu'eux et se révéler supérieur pour mériter les votes. Donc c'est un équilibre subtil à trouver. Donc être à la fois égal et supérieur. Sans exagérer ni dans un sens, si on se révèle normal, ça peut ne pas plaire, ni dans l'autre. On a eu des exemples dans l'histoire des élections françaises de candidats qui n'arrivaient pas à condescendre et par conséquent qui ne touchaient pas les électeurs. Et donc c'est une alchimie à trouver.
Alors il y a... un genre littéraire du récit électoral. Vous donnez de nombreux exemples chez Balzac, chez Zola. Quand apparaît-il ce genre particulier ?
Ah, c'est une question difficile. En un sens, il y a déjà des récits d'élection dans la comédie et chez les historiens en Grèce classique. C'est un genre de la longue durée. Disons, de manière générale, j'ai essayé de m'appuyer sur des sources très, très variées, c'est-à-dire à la fois des récits, des fictions, des romans, des pièces de théâtre, également des traités philosophiques, et puis des reportages, des mémoires. Je me suis aperçu que les élections sont partout. C'est quand même un des grands phénomènes de la vie sociale et aussi de l'aventure de l'homme en société. Et ça a donc sécrété toute une littérature multiforme dans laquelle on trouve beaucoup de vérités profondes. C'est un point auquel je tiens beaucoup. Il me semble que sur un sujet comme les élections et en particulier les passions électorales, c'est-à-dire un sujet qui touche à l'humain, profondément, la littérature, la philosophie ont des leçons à apporter qui sont aussi profondes que les leçons dont je ne méconnais nullement l'importance donnée par la recherche scientifique dans les différents domaines de la sociologie, des sciences politiques et de la psychologie. L'exemple qu'on peut prendre, c'est Balzac. Balzac, remis encore une fois à l'honneur par le film récent sur Illusion perdue, Balzac qui revient toujours sur tous les sujets, et donc de même que Illusion perdue pose le problème de Paris et de la province, de la poésie et de l'action matérielle, et bien de même il y a un roman de Balzac, Le député d'Arcy, qui est consacré aux élections, et qui analyse très profondément ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire les motivations des candidats ambitieux, et puis la fierté des électeurs, puisque là, on va se rendre compte que le petit bourg d'Arcy, peut-être ne va pas voter comme on aurait voulu qu'il votât.
Est-ce que la littérature du XIXe siècle a un amour particulier pour ce thème, une époque où... Eh bien, le système politique se cherche un modèle où de nombreuses expériences différentes sont menées, où les débats sont aussi assez féroces.
Oui, en France, les élections politiques, l'idée de choisir le gouvernement au moyen d'élections nationales apparaissent à partir de la Révolution française. Si bien qu'au XIXe siècle, ce phénomène était encore récent, encore contesté. Il y avait des débats politiques à la fois sur le bien fondé des élections puis sur la manière de définir ou de délimiter le corps électoral chaque fois. Donc c'est un sujet politique d'actualité et ça se reflète dans la littérature de l'époque. Et donc Balzac, oui, Zola aussi. Quand on lit ces textes, on a l'impression, on a une double impression en somme. Une impression d'un côté de permanence, comme je l'ai dit, les mobiles analysés par Balzac sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Il y a une espèce de continuité dans la passion électorale. Les passions, c'est ce qui appartient au fond le plus reptilien de l'homme, et donc l'ambition ou la colère sont des passions qu'on retrouve à toute époque. Donc d'un côté, un sentiment de permanence, et puis de l'autre, on mesure la différence avec notre temps, en particulier les récits de Zola intitulés « Scènes d'élection », qui correspondent donc à la période aux années 1875-77 à peu près. Ces récits nous font mesurer la différence entre la façon dont se déroulaient les élections à l'époque et celle dont elles se déroulent aujourd'hui. Nous avons énormément gagné en sincérité des chiffres, en respect des résultats, tandis que l'époque de Zola est tout de même marquée par des pressions et des intimidations beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui. Donc permanence et en même temps différence avec une leçon plutôt optimiste. Notre situation, dont on a toujours tendance à se plaindre, bien sûr, en réalité, comparée à l'histoire des passions électorales, c'est notablement amélioré. Et donc, la littérature nous sert à cela, c'est-à-dire elle nous écarte de notre présent, elle nous renvoie au passé. Et puis, ça n'est pas nous détourner du présent, parce qu'elle nous y ramène. Et elle nous y ramène mieux armés pour comprendre les évolutions qui ont eu lieu.
Il y a un récit assez extraordinaire, c'est celui d'un homme politique italien, Francesco De Sanctis, qui raconte lui-même sa propre campagne. Il s'agit en plus d'une double campagne, car il est déjà élu dans une circonscription. Il brigue la députation dans une autre, qui est sa province natale. Et là, cette campagne se transforme en histoire sentimentale, où il cherche finalement l'assentiment des frères de son pays.
Oui, donc c'est De Sanctis, c'est un monument de l'histoire de la littérature italienne et en un sens aussi de l'histoire politique italienne et de la création de l'État italien. Mais on ne connaît pas beaucoup ce récit à la première personne de sa propre campagne. Donc il faisait campagne dans sa propre circonscription. Comme vous l'avez dit, ayant déjà été élu dans une autre circonscription, il a mis son point d'honneur à tout de même se présenter au suffrage dans une seconde circonscription parce que c'était sa patrie. Et il raconte les émotions très finement, les émotions mêlées qui l'ont habité, parce qu'il y a l'espoir, il y a un côté, une espèce de tendresse envers ces lieux qu'il a connus étant enfant. Il y a aussi de la déception quand il s'aperçoit que, quoi qu'enfant du pays, il n'est pas toujours accueilli à bras ouverts. Il revoit les uns qui ont des réticences à son égard. Il retrouve au contraire des amis. C'est un chatoiement d'émotions délicates. Et là aussi, il y a une vérité dans ce récit. C'est un récit du 19e siècle. Mais combien de fois voyons-nous lors des élections législatives ou municipales, par exemple, encore aujourd'hui, des candidats dire c'est ma circonscription, je retourne dans cet endroit parce que c'est mon pays. Ce sont des émotions qui durent encore.
À vous lire, on comprend aussi que l'élection est un moment particulier qui ouvre une fenêtre, un moment de recomposition où certains comportements qui seraient inacceptables en temps normal sont possibles. Comment décrire ce moment singulier ?
C'est le moment critique, c'est le moment où décisif. C'est pour ça que les passions sont si fortes au moment des élections, parce qu'elles sont concentrées dans un moment critique. Et les Grecs avaient pour désigner ce moment critique un terme, le terme de kairos, qui veut dire le moment décisif où vont se dénouer les situations. Donc l'élection, c'est un kairos. Donc les passions se nouent. Et puis, si tout va bien, elles vont être assouvies dans le processus électoral. Pour prendre un exemple, mettons que je déteste un candidat. Donc, au moment du vote, je vais voter pour un autre. Et si tout va bien, je m'arrêterai là. J'aurai ainsi assouvi ma détestation sans recourir à d'autres formes de violence ou quoi que ce soit. Donc la passion, en l'occurrence ici la haine, est satisfaite de manière non pas symbolique, mais sublimée, lorsque le résultat des élections est respecté ensuite. Et donc l'élection assouvit les passions tout en les sublimant.
Il y a quelque chose de l'ordre du théâtre, toujours, c'est très frappant en fait, quand on vous lit, dans un processus électoral.
Ah oui, 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 c'est vrai, il y a des péripéties, et puis il y a la catastrophe au sens grec du terme, c'est-à-dire pas forcément mauvaise, c'est le dénouement, il peut être bon aussi, bon pour les uns, mauvais pour les autres. Il y a quelque chose de théâtral quand on le regarde, nous, de l'extérieur.
Et il y a un héros également, des héros.
Des héros. Enfin, on aimerait qu'il y en ait plus peut-être parfois, mais enfin, bien. L'élection est parfaitement réussie lorsque le candidat a une dimension, parvient à une dimension supérieure, ce qu'on appelle le charisme. Notion qui a été mise en circulation dans le domaine politique par la sociologie allemande à la fin du 19e siècle et que j'étudie à partir des travaux de Max Scheler, philosophe donc, qui écrivait autour des premières années du 20e siècle à la suite de Max Weber et qui a donc mis en avant cette notion de charisme en disant que les peuples ont besoin d'être guidés par des individus ayant du charisme. Avoir du charisme, ce n'est pas seulement avoir des qualités. C'est plus que cela. C'est incarner des archétypes moraux, culturels, qui sont importants pour les électeurs et donc on les incarne en soi, si bien qu'à la limite, hein, on peut avoir du charisme en manquant de certaines qualités. Par exemple, un candidat charismatique peut être laid, mais il est d'un autre ordre, il incarne autre chose. Donc on revient vers le sens étymologique du mot, puisque le mot charisme en grec est attesté en particulier dans le Nouveau Testament, et c'est chez saint Paul qu'il prend une grande importance pour désigner la grâce surhumaine qui est conférée par Dieu à un individu au service de la collectivité. Donc c'est encore cette dimension-là qui existe du point de vue politique dans cette idée du charisme. Je l'ai étudié à propos d'un texte extraordinaire.
Sur Kennedy.
Voilà le reportage consacré par Norman Mailer à la candidature de Kennedy, candidature à la Convention démocrate qui devait le choisir comme candidat, et ensuite il a été élu président des États-Unis. Et donc Norman Mailer, en quelques dizaines de pages, a tracé de Kennedy et de son ascension un portrait qui correspond tout à fait à la définition du charisme, c'est-à-dire un individu supérieur, pas nécessairement bon sous tous les aspects, mais incarnant quelque chose, là, incarnant les idéaux de l'Amérique, les rêves des électeurs américains, en un moment de crise. Le charisme fonctionne souvent sur un terreau de crise. À l'époque de Kennedy, c'était une crise des valeurs en Amérique, à la fois en raison des problèmes intérieur du pays, et puis aussi de la guerre froide et des rivalités avec la Russie. Et donc Mailer a tracé là ce portrait sous ce titre « Superman débarque au supermarché », ce titre qui indique bien l'idée d'un homme de supérieur, d'un autre ordre, Superman, qui fait intrusion dans la réalité la plus banale, le supermarché.
Nous avons donc un héros, un jour particulier, un enjeu particulier et un lieu, c'est l'isoloir. D'où vient ce mot isoloir ?
On croit souvent que le mot isoloir est lié à seul, ou à l'adjectif seul, en latin solus. Et en réalité, non, pas du tout. Ce sont deux mots différents. L'étymologie d'isoloir et du verbe isoler, c'est insula, une île. Donc l'isoloir, c'est un lieu étrange, paradoxal, c'est une île dans laquelle nous entrons pour prononcer notre vote sur la situation. Je dis paradoxal parce que lorsqu'on tire le rideau de l'isoloir, c'est normalement pour se mettre à l'abri de toutes les pressions extérieur qui pourrait dénaturer le vote. Mais quand on tire le rideau, on ne tire pas le rideau sur ce qu'on porte en soi. Et donc dans l'isoloir, entre avec nous, parce que nous les portons en nous-mêmes, nos allégeances, nos appartenances, nos solidarités de classe, de parti, d'église, de sexe, tout ce qui fait un individu. Il y a beaucoup de monde, en fait, dans l'isoloir, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et c'est ce lieu emblématique de la démocratie qu'il faut goûter. Et il faut se hâter de le goûter parce qu'il est menacé. Et lorsque nous voterons en utilisant simplement nos smartphones depuis un endroit quel qu'il soit, nous aurons perdu quelque chose, je crois.
Alors, arrive ces fameux résultats de l'élection, victoire pour les uns, défaite pour les autres. De nouveau, c'est le déchaînement des passions.
Le déchaînement des passions. Les passions tristes et les passions conquérantes à nouveau. Donc le problème est totalement différent, naturellement, pour le battu et pour le gagnant. Le battu doit essayer de surmonter, bien entendu, la déception, l'humiliation. Et il y a plusieurs manières. En somme, certains sont amers, renoncent. Donc on devine aisément les noms qu'on pourrait mettre derrière des différentes attitudes, et d'autres au contraire font preuve de résilience, ce mot aussi si important dans notre contexte aujourd'hui, en ayant la force ou de recommencer ou de passer à autre chose. Mais le plus difficile, c'est de résister au succès. Et l'un des problèmes qui se pose pour le candidat élu, c'est de savoir triompher avec modération, ce qui est encore une fois un exercice de modération de ses propres passions.
Avant de postuler de nouveau et de se lancer dans une réélection, vous donnez l'exemple de Montaigne. Pourquoi ?
Parce que c'est un magnifique exemple du rôle de la passion, donc ce que j'ai voulu montrer, parce que Montaigne, disons-le, même Montaigne, parce que Montaigne a cherché toute sa vie, a assuré une certaine sagesse, un certain équilibre, et même à l'égard des fonctions politiques, il essaye de les tenir à distance, de ne pas se laisser absorber par la tracasserie publique, comme il dit, de garder sa citadelle intérieure. Mais lorsqu'on le voit lui-même à l'œuvre, on s'aperçoit qu'il a été gagné lui aussi par cette intensité passionnelle. Donc Montaigne a été élu maire de Bordeaux. Là, nous sommes dans le cadre d'élections municipales. Il a été élu maire de Bordeaux. Il a exercé son mandat finalement à la satisfaction générale, peut-être même encore plus qu'on ne l'attendait au début. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est de voir combien d'efforts il a déployés pour sa réélection. Des documents qui ont été analysé à partir du 19e siècle et puis ensuite au 20e, montre qu'il a vraiment tout essayé, aussi bien en envoyant des mémoires aux autorités que parfois en jouant sur la composition des assemblées électorales dans sa propre ville, pour réussir à être réélu. Il y mettait un point d'honneur, parce que la réélection, c'est plus que l'élection. Être élu, c'est évidemment une satisfaction. Être réélu, c'est une consécration. Et inversement, ne pas être réélu quand on était en poste, c'est pas seulement manquer le but que l'on poursuivait, c'est en plus un désaveu. Donc il y a une intensité passionnelle plus forte dans la réélection. Et donc Montaigne a réussi, disons-le tout de suite, hein, il a réussi à se faire réélire. Il y avait une autre dimension encore pour lui, psychologique, c'est le rapport avec son père. Puisque son père, Pierre Ekem, avait été lui-même maire de Bordeaux, mais n'avait pas été réélu. Et donc, en se faisant réélire, Montaigne dépassait le père. C'est un élément dans ce dialogue qu'il a mené avec la figure du père, une figure aimée, mais qui était devant lui, enfin, avec laquelle il se confrontait.
Vous terminez par un clin d'œil à l'actualité, avec la difficulté de rester aux commandes en période d'épidémie, et vous avez pensé à nous soumettre l'exemple de Périclès de façon inattendue.
Les Grecs, toujours les Grecs. Hein. Et donc Périclès, oui, c'est un des exemples les plus anciens, peut-être le plus ancien du livre, presque 2500 ans d'écart pour nous. Et en même temps, c'est un exemple tout à fait d'actualité. Donc Périclès était non seulement stratège à Athènes, mais avec un rôle particulier parce qu'il avait une importance et en se faisant réélire chaque année, il avait pris une position dominante. Et ce qui est arrivé à Périclès à la fin de sa vie, c'est que d'une part, l'épidémie a éclaté à Athènes, donc ce qu'on appelle traditionnellement la peste d'Athènes, qui a été décrite par Thucydide dans des pages admirables qui ont été traduites par Jacqueline de Romilly, et qui était probablement, d'après les médecins d'aujourd'hui, une affection de type viral, avec un virus inconnu jusque-là. Donc d'un côté, contexte épidémique, et puis de l'autre, c'est le moment où éclate la guerre entre Athènes et Sparte, Donc contexte de guerre, et là Athènes était directement en guerre et directement menacée. Ces deux facteurs ont créé un mécontentement contre Périclès, si bien qu'en 430, il a été probablement poursuivi judiciairement et il a perdu sa charge de stratège. Mais 6 mois plus tard, les Athéniens, peuple versatile, ont changé d'avis, se sont dit qu'au fond, pour affronter les difficultés de l'heure, c'était quand même lui qui était le plus à même de les guider, et ils l'ont réélu stratège. Donc nous avons là de matière à méditation. Un candidat à la réélection peut se demander s'il va subir le sort de Périclès en 430, qui n'a pas été réélu, ou en 429, quand on lui a fait confiance à nouveau.
Eh bien, le suspense reste entier pour notre Périclès. Merci Laurent Pernaud. Je rappelle donc le titre de votre livre, La fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci et à bientôt.
Merci à vous.